Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio
sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste.
Midi 13h.
17h. 18h. Agenda.
Nouveautés discographiques.
Interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Ce souffle du nez en même temps.
De glace entre chaque mot. Je vais trouver ce rushing.
Nous parlons tous dans la logosphère.
Vous êtes ici,
si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure.
Avec lui.
Avec moi,
en même temps.
Les citoyens de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Et oui, vous êtes bien sur Divergence FM, le 93.9. Bonjour à tous et à toutes. Je suis accompagnée de Thomas et également Yannick aujourd'hui avec moi pour les bons plans. Mercredi 10 mars, j'annonce la sortie en salle du court-métrage de soutien aux travailleurs sans papier en grève pour leur régularisation. On bosse ici, on vit ici, on reste ici. Un court-métrage qui est projeté dans 500 salles, majoritairement d'art et d'essai, les gros circuits n'ayant pas encore répondu à cette demande. Et puis aujourd'hui dans le Tous au poste, eh bien, ce sera un midi théâtral avec Florent Robin qui recevra Dag Jeanneret pour un spectacle qui s'appelle Occident, qui est réalisé en ce moment au Théâtre des 13 ans. Et puis ce sera éco-compatible, un spectacle donné par le Théâtre des Os au Domaine d'eau à 12h40, on en parlera un peu plus. Mais tout de suite, armez-vous d'un stylo et d'un papier, c'est parti, je vous laisse entre les mains de ces deux jeunes hommes, c'est nos bons plans.
Alors, ah oui. Alors, pour tous ceux qui s'intéressent à la cause palestinienne, on vous propose un mini-concert en hommage au poète palestinien Mahmoud Darwish, né durant la Seconde Guerre mondiale en 1941. Il est mort en 2008. Ce sera notamment avec Rodolphe Burger à la guitare.
Burger.
C'est à 18h au Polygone à la FNAC. L'entrée est libre.
Et pour tous les amateurs de funk, on vous propose les Tontons Flaggers. Le groupe de 10 musiciens jouera à 21h au Baloir, qui se trouve au 21 boulevard Louis Blanc. On rappelle que vous pouvez réserver au 04 67 79 36 68. Je répète, 04 67 79 36 68. Pour les amoureux des planches, vous avez rendez-vous au Café de Théâtre à la Chocolaterie avec la pièce de Sota, qui, on le rappelle, est la fondatrice du Café de la Gare de Paris. La pièce s'intitule Roger, Roger et Roger, ça commence à 21h et le prix est de 10€. Pour les réservations, c'est le 04 34 40 11 78, 04 34 40 11 78.
Concernant toujours le théâtre, on rappelle que la pièce Occident se rejoue ce soir. Cette pièce de Rémi DeVos, mise en scène par Dag Jeanneret. On rappelle que Florent reçoit tout à l'heure Dag Jeanneret. C'est à 19h au Théâtre des 13 ans. Alors c'est mercredi et si vous avez rien prévu pour vos enfants, il y a un défilé de carnaval sur le thème de robots, aliens et savants fous. Alors préparez le champomy et les déguisements. Le départ se fait à 15h à la Maison pour tous Marie Curie à Celle-Neuve.
Et comme chaque mercredi soir, il y a une conférence à l'Agora des Savoirs. Le thème de ce soir sera « Penser le manque, la mort dans la condition humaine » par Jean-Claude Amessène. C'est à 20h30 à la salle Rabelais, l'entrée est libre, mais pour les plus feignants, on rappelle que la conférence est diffusée en direct sur Divergence FM.
C'est dans le cadre de la Journée de la Femme, et même si elle a un nom masculin, l'Âge d'Or organise une lecture de textes et de poèmes sur George Sand.
N'oublions pas que c'est la semaine de l'environnement. Pour tous ceux qui ont manqué la manifestation plus qu'originale anti-pub d'hier après-midi, ils peuvent aller voir la projection des films de l'association Ouvre-Tête. Ce sera de 19h30 à 23h, sous le chapiteau à l'Université des Sciences, place Eugène Bataillon. Vous pouvez contacter l'association au 04 67 14 41 39, 04 67 14 41 39.
Vous aimez les grands idéaux et l'histoire américaine, on vous propose une rencontre avec Ronald Quigg. Il est universitaire montpelliérain et présente son livre Utopie américaine, expérience libertaire du 19e siècle à nos jours. C'est organisé par la librairie Soramps, c'est à 19h à la médiathèque centrale Émile Zola à Antigone. L'entrée est libre.
Eh bien, merci Thomas, merci Yannick pour ces bons plans. Je suis sûre que vous trouverez et puis que les auditeurs trouveront également quelque chose à se mettre sous les yeux, sous la dent ou sous l'oreille. Tout de suite, eh bien, on va écouter W, Pineapple Dream, obsession, frénésie de liberté, rencontre et voyage, aventure personnelle et collectif. Voilà en quelques mots le parcours de l'artiste W entre onirisme des textures, mélancolie instrumentale et exigence de l'épure électronique. Have a slice of Pineapple Dream.
Du dernier album de W, Pineapple Dream. Mais place maintenant à Florent et son invité.
Tous au poste, interview.
Tous au poste sur Divergence FM, le 93.9, comme le disait Pascal, Florent Robin au micro. Nous allons parler théâtre, puisque j'étais au théâtre hier soir. J'ai été voir Occident, une pièce de Rémi Devos, mise en scène par Dag Jeanneret. Nous recevons Dag Jeanneret pour nous parler de cette pièce. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, merci à vous.
Alors moi, l'Occident, c'était la deuxième fois que je le voyais, avec un plaisir égal, peut-être même plus grand encore que la première fois. Occident, on peut dire que c'est une comédie noire, une comédie grinçante, une comédie qui met en scène un couple en scène de ménage, et qui est un couple monstrueux, monstrueux, et surtout aussi comique. Une descente aux enfers d'un des personnages, une descente aux enfers d'un couple qui bascule, surtout pour l'homme, vers l'extrémisme. C'est un petit peu ça, en résumé.
C'est parfaitement ça. Je suis à 100% d'accord avec votre résumé, avec votre appréciation. Je n'ai rien à rajouter pour l'instant.
Je disais que c'était une pièce drôle parce que c'est vrai qu'on rit beaucoup, on rit très fort pendant la pièce. Et en même temps, c'est une pièce très, très sombre.
Oui, le rire, comme souvent, je crois, fonctionne comme une espèce de soupape pour se rassurer, enfin pour se détendre. Parce qu'effectivement, l'endroit où sont ces gens, l'endroit mental, psychique, et ce couple infernal, et cet endroit est douloureux, et sans fin, semble-t-il sans fin, puisque la pièce s'arrête évidemment à un moment, au bout de cette scène qui reviennent cette nuit en fait, puisqu'on comprend plus ou moins que ça se passe plutôt la nuit, mais que on peut soupçonner que cette énorme bagarre de mots va durer entre guillemets éternellement.
Alors toi, tu as rencontré ce texte de Rémi Devos. Rémi Devos, on l'avait reçu il y a quelques semaines sur cette antenne pour un autre texte. Comment est-ce que tu as rencontré ce texte ?
Je l'avais lu puisque le métier une des parties du métier des metteurs en scène de théâtre, c'est de lire des pièces contemporaines de préférence, mmh, et de répertoire, mais aussi contemporaines. Donc je l'avais lu avec une autre pièce qui s'appelle Alpenstock, qui s'est d'ailleurs jouée au Domaine d'eau il y a le mois passé. J'avais trouvé ça bien, mais je pense que j'étais passé partiellement à côté. En tout cas, je m'étais pas dit « Ah tiens, il faudrait que j'essaye de faire ça ». Comme on dit bêtement, mais enfin c'est assez simple, je n'avais pas eu de coup de cœur. Mmh. Tout en trouvant cette chose intéressante, mais là, je pense, dans mon souvenir, non, c'est ça, dans l'apparente pauvreté de la langue et simplicité de la langue m'avait pas assez intéressé. Au sens où moi, le plus souvent, on pourrait... comment dire ça ? C'est la poétique de la langue qui guide mes choix. L'écriture, vraiment. Dans l'écriture contemporaine et d'ailleurs dans le répertoire aussi. Et donc voilà, j'avais mis ça de côté, comme on lit des pièces qui vous plaisent, mais pas plus. Et puis, un peu par hasard, la Maison Antoine Vitesse, qui est le centre international de traduction théâtrale à Montpellier, qui est basé à Montpellier, avec qui je travaille assez régulièrement, m'a proposé une année après lire pour un cénacle de traducteurs et d'hommes de théâtre essentiellement des pays de l'Est qui étaient en 3 jours à la Chartreuse de Vigneuve-les-Avignon, une quinzaine de pièces. J'ai engagé une actrice et on a lu non pas l'intégralité des pièces mais une demi-heure à peu près de chacune de ces pièces. Parmi cette quinzaine de pièces, il y avait des pièces françaises que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas, et des pièces venant des pays de l'Est. Bref, parmi ces pièces, il y a eu Occident. J'ai donc fait une petite coupe de manière à avoir une demi-heure du texte pour ces gens qui écoutaient. Et on a un petit peu répété, mais c'était vraiment, il s'agissait uniquement d'une lecture. Et on a lu ça et ça a produit quelque chose qui m'a vraiment servi de révélation d'un certain point de vue, au sens où j'ai entendu d'abord les gens rire énormément, ce que je ne pressentais pas tant que ça. Et en même temps, c'est pas que le rire, parce que moi, je suis pas un obsédé du rire, très loin de là. C'est d'ailleurs le premier spectacle partiellement comique que je fais. Je suis plutôt pas très gay dans mes choix d'habitude. Et donc, ça n'est pas que le rire. C'est aussi que dans la journée, la soirée qui a suivi à la Chartreuse, quand on est retenu, enclavé dans cette magnifique Chartreuse, donc on parle beaucoup entre les gens qui sont là. Et tous les gens, sur la quinzaine de pièces qu'on avait lues, les gens ne me parlaient que d'Occident. Et je me suis dit quand même, il y a quelque chose de troublant chez des gens de théâtre, mais qui ne connaissaient pas les pièces, donc qui les découvraient. Il y avait une espèce d'attrait, d'attirance, presque de fascination pour cette pièce. Bon, voilà, l'un dans l'autre, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est juste. Peut-être que, en fait, cette pièce... et parce que je l'avais lu à haute voix, ça m'importe beaucoup d'expliquer ça parce que c'est tout simple. Mais la première fois, je l'avais lu dans ma chambre, comme on dit, dans mon bureau. Et là, je la lisais avec une comédienne amie à haute voix. Et c'est le passage à haute voix, plus les réactions des gens, qui m'ont fait comprendre, la richesse de cette œuvre en apparence triviale et simplette.
C'est un peu comme pour la poésie quand on lit un texte comme ça à plat dans son bureau, comme tu le disais, ou dans sa chambre, on la redécouvre différemment quand elle est lue à haute voix.
Évidemment, moi ça m'a servi de leçon, je ne le fais pas toujours, mais je pense qu'il y a, l'énonciation, la parole, et pour cause, puisqu'on est des gens qui tentons de parler de la parole, et de raconter des histoires avec les mots, le passage à haute voix, révèle des choses. Et en poésie, je suis tout à fait d'accord avec toi aussi. Voilà. Suite à ça, je me suis décidé. Et après, il s'est agi ça a été assez simple, de choisir deux acteurs que je devais choisir et que je devais penser à la hauteur de ces espèces de deux monstres que sont les personnages. Ça faisait depuis 3-4 ans que je tournais autour, entre guillemets, de Philippe Autier, qui habite la région, qui est un acteur que je connaissais de longue date, qui a été un des grands acteurs du Théâtre du Soleil d'Ariel Mnouchkine, qu'il voyait mes spectacles précédents, qu'il m'a dit à plusieurs reprises avoir envie d'essayer de faire du théâtre avec moi. Moi, c'était la même chose. Et la rencontre entre le personnage d'Occident et lui m'a paru tout de suite évidente. Et je le regrette vraiment pas, loin de là. Et puis, Stéphanie Marc, c'est une actrice avec qui j'avais déjà travaillé. Donc, ça a été plus simple que d'être très vite convaincu de son niveau de jeu et de sa variété. Il faut une actrice très virtuose et en même temps avec une humanité très prégnante. Et je savais qu'elle l'aurait, cette humanité-là. Et cette légèreté aussi.
Ouais, c'est un couple sur la scène qui fonctionne très bien.
Ils ne se connaissaient pas.
Ils ne se connaissaient pas.
Non, pas du tout. Donc, y a ça aussi, quand c'est une pièce à deux personnages, par définition, là, ils sont l'un sur l'autre. Donc, quand on fait des cauchemars, on pense que les gens vont s'empailler, vont pas s'entendre. C'est ce qui est possible, ce qui arrive.
Ça arrive.
Et là, ça aurait été évidemment terrifiant qu'en plus du sujet, ils ne s'entendent pas. Ça n'a pas été le cas. Bon, tout s'est très bien passé. Donc, voilà, j'ai été très heureux de ce choix-là.
Mais c'est un choix, comme je disais, qui fonctionne pour notre plus grand bonheur de spectateurs. Et tu as rencontré Rémi DeVos à propos de ce texte.
Oui, dès le début, dès le choix du texte. Alors bon, la lecture initiale ne m'a pas les lectures initiales ne m'ont pas suffi, évidemment. Donc il y avait quand même quelques points qui m'intriguaient, quelques points aveugles dans la pièce, malgré sa simplicité. Je suis monté le voir à Paris. Il se trouve qu'on connaît des gens en commun. Ça a été très simple. Et Rémi est un type très normal, très simple, qui parle peu de ses pièces, en fait, comme pas mal d'auteurs qui ont peu envie de gloser sur leur propre écriture. Y en a d'autres qui glosent beaucoup, mais lui, il est plutôt très avare de rien, de tout. Mais il m'a quand même un peu éclairé, voilà. Il m'a dit deux, trois choses. Et puis après, il est venu voir le travail au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, au Centre Dramatique National, où on a fait une présentation en juin 2008. Et là, il était, je crois, très heureux. Il était très ému, même, parce que la pièce a déjà été montée et il la voyait, m'a-t-il dit, à plusieurs reprises, un peu comme il l'avait rêvé. Voilà, ça a l'air un peu prétentieux de le dire comme ça, mais c'est littéralement comme il me l'a dit, lui. Voilà, il avait les premières mises en scène de la pièce. Il me l'a avoué après, l'avait convaincu qu'à moitié. Et là, il y voyait impossible, quoi. Non pas le... parce que ça n'existe pas par définition. Et d'autres le feront après moi, et j'espère bien.
Heureusement.
Heureusement. Mais il y voyait une espèce d'adéquation entre le propos, la violence, et surtout, je pense, ce sur quoi il a beaucoup insisté, l'équilibre entre la violence et le rire. Parce que d'autres gens ont monté cette pièce, m'a-t-on raconté, sans que personne dans la salle ne rie jamais. ce qui me paraît un peu bizarre.
Oui, c'est vraiment une inadéquation. On va faire une petite pause musicale, puisque justement, entre les scènes de ménage, il y a du Vivaldi, extraits de Vivaldi. Donc j'ai choisi un extrait des quatre saisons de Vivaldi.
Bon, hein, ça va nous...
Je crois qu'il est dans la pièce.
Ça va nous apaiser.
Ce poste sur Divergence FM 93.9 avec cet extrait des quatre saisons de Vivaldi. C'est le dernier mouvement de l'été, si je ne m'abuse, dans la version Claudio Simone. Et nous parlons d'Occident ce midi avec Dag Jeanneret, qui est metteur en scène de cette pièce de Rémi Devos qui se joue au 13 Vents, au Théâtre des 13 Vents. On disait que c'était donc une série de scènes de ménage, un couple. Alors, ce qui est à noter dans ce couple, c'est un couple qui a une vie vide, leur vie est vide, leur sexualité est vide, et que bah, par-delà ce vide, il y a quand même la parole est, qui est au cœur vraiment du spectacle.
Ben, c'est-à-dire que sans être vouloir être dans l'abstraction, la parole est littéralement ce qui les tient en vie. Alors, on pourrait peut-être le dire de beaucoup de choses, mais là, dans ce machin-là, cette invention-là de Devos, cette pièce-là, il n'y a plus que ça. C'est vrai, tu l'as très bien dit, il ne se passe plus grand-chose à aucun point de vue entre eux, si ce n'est... comme un organisme vivant qui est la parole, qui se transmet de l'un, enfin qui circule entre l'un et l'autre, et dont on a l'impression, c'est ce que je disais aux acteurs beaucoup et qu'ils ont fini par comprendre assez vite d'ailleurs, que c'est ça qui les maintient debout, littéralement debout, que sans les mots, ils tombent, ils meurent. On ne sait pas, bien entendu, mais plus rien n'existe. Évidemment qu'au théâtre, sans les mots, au théâtre de texte en tout cas, oui. Sans les mots, plus rien n'existe. Mais là, c'est très réel. C'est un désert. C'est aussi pour ça que le décor est lui, dans l'abstraction, dans une espèce d'épure absolue, à dessein. et que les acteurs sont sur une espèce de ring de boxe, enfin qui peut s'apparenter à une sorte de ring de boxe, mais c'est vraiment pour dénuder les corps, pour qu'on voit les corps, qu'il n'y a pas d'accessoires, la musique est dans les noirs et non pas pendant les séquences. Mmh. Donc il n'y a que les mots, ils ne se touchent pas. J'ai souhaité dès le début, pour éviter de tomber dans le combat de catch au mauvais sens du terme et le réalisme à la noix ou cinématographique, mmh, qui ne se touche pas. Donc qu'est-ce qui fait qu'il y a du théâtre? Très simplement, c'est le dialogue et la puissance du dialogue et la puissance d'évocation, y compris comique, du dialogue qu'a écrit Rémy entre ces deux pauvres gens.
Alors, il y a à noter une chose quand même, c'est que Rémy DeVos ne juge jamais ses personnages. Par-delà ces dialogues qui sont souvent violents, qui sont souvent âpres, parfois triviaux, les personnages sont montrés tels quels.
Oui. Je ne peux pas rajouter grand-chose d'autre. Non, c'est exactement ça. Eux se jugent, et encore d'ailleurs, si elle le juge. Elle lui assène des choses, lui dit des choses.
Elle lui en envoie.
Elle lui en envoie plein. Mais l'auteur, effectivement, comme tu le dis, le point de vue, il n'y a pas de point de vue de l'auteur sur les personnages. Il livre des gens en perdition, bouleversés intérieurement, dans un état de une sorte d'état de survie, mais sans les stigmatiser jamais. Et c'est, je pense que ça contribue paradoxalement à l'intérêt qu'on peut porter à cette heure de spectacle et à cette pièce. Parce qu'on pourrait un peu se dire, et peut-être que des gens se le disent, « Bon Dieu, une scène de ménage qui dure 8 séquences, on en a vu 453 000, et ça n'est pas toujours des plus passionnants ni des plus réjouissants. » Et là, de fait, au premier degré, c'est une énormissime scène de ménage. Mais effectivement, l'âpreté de la parole, la violence de la parole, la violence de l'échange fait que quelque chose sort qui est intéressant. Ça me fait penser tout d'un coup à certains films de Piala, à Nous ne vieillirons pas ensemble, ou à des choses où, là aussi, c'est une querelle de coupe, mais où ça atteint un autre niveau grâce à, je pense, comme d'habitude, aux acteurs d'une part, mais à la langue, à l'écriture même.
À noter donc, c'est la précision des dialogues. Tu disais, je ne sais plus, dans le dossier de presse, j'ai lu ça, ça t'évoquait une partition musicale.
Oui, il n'y a pas de didascalie, il n'y a pas d'indication scénique dans le livre, dans la pièce. Et les deux personnages s'appellent lui et elle, la quarantaine. C'est tout ce qu'il dit de ces gens-là, et heureusement, il a bien raison. Et à part ça... quand je disais qu'il n'y a pas d'indication scénique, la seule chose qu'il indique, c'est des silences ou des blancs troués dans l'écriture, c'est-à-dire comme en poésie, où tout d'un coup la ligne s'interrompt, il y a un blanc d'écriture et le mot reprend après. C'est les deux sortes, je dirais techniquement, littéralement, c'est les deux sortes de silences qu'il indique, et on a beaucoup travaillé là-dessus, à tel point qu'on a même au début, je m'en souviens bien, essayer de faire pas comme lui, comme on dit, essayer de faire notre propre chose et de ne pas respecter obligatoirement ces silences-là. Et on s'est vite rendu compte qu'il avait une oreille assez... Enfin, moi, j'étais assez baba, j'étais assez impressionné, parce que quand on se mettait à faire ce qu'il indiquait littéralement, il y a quelque chose de la rythmique qui apparaissait. Mmh. Et de là, d'une sorte de musicalité, une musicalité un peu bizarroïde, c'est pas une fugue de Bach, loin de là, mais oui, il y a quelque chose de l'ordre de la partition. Une partition, encore une fois, épurée, comme ça, qui a l'air toute simplette, mais qui est... On dit toutes les syllabes du texte, par exemple, on ne peut pas enlever. Et je les ai beaucoup embêtés là-dessus, en disant non, dites exactement quand il y a une négation, faites la négation, quand il n'y a pas de négation, ne faites pas la négation, pour que cette langue, malgré sa simplicité, soit mâchée pour qu'elle sonne, qu'elle résonne, non pas comme une langue de tous les jours, ce qu'elle est en apparence, mais comme une langue de théâtre. Ça a l'air peut-être compliqué, mais ça l'est pas tant que ça.
On va finir parce qu'on fait signe que le temps tourne. Avec le titre Occident. Occident, moi, ça m'évoque quand même des choses. Parce que lui, quand même, le personnage bascule vers l'extrémisme. Mais Occident, oui, est-ce que c'est par hasard, ça s'appelle
c'est
Occident?
C'est une dimension dont on n'a pas parlé encore. Moi, j'y ai pensé évidemment aussi, puisque je me souviens, bien que plus jeune que ces types-là, du célèbre groupe Occident, dont on fait partie Alain Madelin, Patrick Devedjian, actuel ministre, Claude Goasguen, Gérard Longuet, ex-ministre, enfin beaucoup de passionnants hommes de droite actuels, qui faisaient le point très violemment à la barre de mine pour casser du gauchiste dans les facs et ailleurs, mais surtout dans les facs. Ils se sont un peu assagis en apparence depuis, mais enfin.
En apparence.
Bon, en apparence, on est bien d'accord. Donc, alors, donc évidemment, je pensais à ça, puisqu'effectivement, le personnage masculin, peu à peu, emprunte au retour de ses virées nocturnes dans les bars tabac, enfin, dans les bars, le Palace et le Flandre, les deux bars qui sont cités dans la pièce, se met à littéralement vomir, régurgiter des propos de comptoir extrémistes liés aux. C'est pas liés, qui sont racistes, voilà, tout simplement.
Qui sont carrément racistes.
Ignoblement raciste, scandaleusement raciste.
Pitoyablement raciste.
Pitoyablement. Et parce que c'est vraiment le trottoir, quoi. C'est les propos de trottoir, mais c'est des choses qu'on entend dans les bars, c'est vrai, malheureusement, de temps en temps. Sur l'étranger, sur l'impossibilité d'accepter l'étranger, sur l'arabe, qui est une figure repoussoire absolue, sur le yougoslave, là, c'est un peu plus délirant. mais je pense que c'est volontairement pour montrer que le personnage n'est évidemment pas un idéologue, mais qu'il se met à détester les Yougoslaves parce qu'il a croisé des Yougoslaves et que c'est juste parce qu'il répond, c'est juste parce que c'est des Yougoslaves. Mmh. Ce qui est quand même le niveau zéro de la pensée politique. Mais donc, Rémi DeVos, pour finir là-dessus, lui dit que ça n'est pas du tout ça, qu'il n'y a pas du tout pensé, que peut-être même il ne connaissait pas l'existence du groupe Occident, qui date donc de la fin des années 60. Donc voilà, je pense qu'il ne dit pas la vérité.
Moi non plus.
Ou qu'il n'a pas envie de la dire. Voilà. Alors après, c'est mon boulot de metteur en scène de rappeler que ces gens-là ont existé et qu'ils sévissent encore.
Voilà, on fait signe qu'il faut arrêter. Donc, Occident de Rémi DeVos, mise en scène de Dag Jeanneret, c'est au 13 Vents. Et donc, ce soir, c'est à 19h. Jeudi, c'est à 19h. Vendredi, c'est à 20h45. C'est un bon plan Divergence FM. J'ai adoré la pièce. Allez-y, courez-y, ça vaut vraiment le coup. Merci, Dag, de nous avoir accompagnés ce midi.
Merci, Florent. Merci beaucoup. Thank you.
Du 9 au 12 mars, le Théâtre des Os revient au Domaine d'Eau avec un one-woman show décapant et salutaire. Éco-compatible. Le couple Trésor et Chatsy se préoccupent du sort de la planète. Ils recyclent les sagites. Farceuse et comique, la morale de l'histoire pourrait tenir en ces quelques mots écologiques. Rire, ça remplace la viande. Éco-compatible du 9 au 12 mars au Domaine d'Eau. Réservation 0800 200 165 0800 200 165. HIV.
Tous au poste, interview.
Et en cette deuxième partie de ce Tous au poste, j'ai le plaisir de recevoir Gisèle Salin qui est à la base du texte et à la base de la mise en scène de ce spectacle éco-compatible à voir au Domaine d'Eau jusqu'au 12 mars, jusqu'à ce vendredi. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Alors éco-compatible, c'est une comédie sur l'environnement incarnée par la sarcastique Anne Génie qui raconte eh bien, son histoire entre son couple, elle s'appelle Trésor, et puis son mari c'est Schatzli, qui signifie d'ailleurs trésor en suisse allemand.
Absolument.
Et elle poursuit son aventure théâtrale, commencée il y a près de 15 ans avec Eurocompatible et Mondiocompatible. Vous êtes un duo qui fonctionne depuis longtemps apparemment.
Oui, on travaille ensemble depuis 20 ans au Théâtre des Os. Et puis en fait, la naissance de ce couple, enfin de ces deux héros, Trésor et Schatzli, est survenue à un moment donné où notre théâtre était vraiment dans une situation catastrophique. On devait fermer. Donc on s'est dit, tant qu'à faire de fermer, faisons-le en riant. Et Anne et moi, on avait envie depuis longtemps de mener un spectacle à partir d'improvisation. Et c'est ainsi que est né ce personnage de Trésor, qui est donc un personnage populaire. C'est une dame qui parle le suisse-allemand. Elle parle avec l'accent suisse-allemand. Elle parle comme ça. Donc, elle a un français avec des expressions un peu spéciales. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que c'est un personnage qui est très positif. Elle est joyeuse, elle est drôle et surtout, elle est vraiment optimiste. Et donc, c'est agréable de travailler avec un tel personnage parce qu'on peut créer des situations qui sont des situations compliquées. En fait, le personnage peut être, comme on dit tout simplement, dans la merde. Et on voit comment c'est qu'en fait, elle se débat. Elle essaye toujours de trouver la bonne sortie.
De façon un peu innocente, des fois. On a l'impression qu'elle est très innocente par rapport à tout ce qui lui arrive dans sa vie. Et à un moment, on la voit dans le spectacle où elle est complètement dominée par la technologie, puisqu'elle s'est fait implanter une puce dans le cou qui fait Bluetooth, en même temps caméra, en même temps téléphone portable, et qu'elle va se retrouver complètement submergée par cette puce-là. Et en même temps, elle nous raconte tout ça de manière très joyeuse. C'est son quotidien, c'est marrant. Voilà, il y a une légèreté dans ce spectacle, je trouve.
Oui, et c'est aussi la question en fait de la naïveté du personnage. Quand on parle de naïveté, nous au théâtre, on n'entend pas naïveté au sens, disons, idiot, mais au sens que le personnage se trouve en face de situations toutes nouvelles pour lui et qu'en fait, il n'a pas les clés, il ne connaît pas nécessairement la solution. Donc, il est naïf en face de cette situation. Et donc, c'est le cas de notre Trésor qui ne peut pas toujours décoder ce qui lui arrive ni l'analyser, mais qui le prend à bras le corps.
Et donc, on la voit évoluer dans cette espèce de futur complètement technologique, machiné, etc. Pourquoi avoir eu envie de parler de ça ?
Alors, dans toute l'aventure des spectacles compatibles, comme on les appelle, dans Euro, dans Mondiaux et maintenant dans Echo, en fait, on s'est toujours intéressé à traiter les sujets les plus actuels. Donc, avant d'entrer en répétition puis de commencer des improvisations, on avait en fait une grosse caisse pleine de sujets, pleine d'articles, pleine de documents, on le renversait au milieu de la salle, puis là on commençait à trier et puis à la fin on disait, tiens, quels sont les deux sujets les plus traités, les plus grandes préoccupations actuelles pour les gens, pour monsieur, madame, tout le monde. Donc là, dans ce volet, les deux sujets qui sont les plus traités actuellement, en tout cas dans notre pays, c'est en fait toute la question de la technologie et l'écologie. Donc on a créé un spectacle en deux volets sur les deux sujets. C'est deux volets qui se répondent, mais c'est en fait pour cette raison-là qu'on a traité ces sujets.
Et quel est votre regard justement sur ces politiques actuelles, parce qu'il y a même des sujets qui sont gouvernés par la politique, hein, la technologie et l'environnement. Quel est votre regard sur ces deux sujets-là personnels ?
À travers le personnage, on peut mener par sa naïveté une critique. Donc le premier tableau, en fait, sur la technologie, c'est-à-dire on a grossi le trait, on a caricaturé la situation, en fait, de l'exploitation de l'être humain par la technologie. Parce que l'histoire des puces, enfin, ce qu'on raconte, c'est toutes des histoires vraies. Les puces, en Espagne, les jeunes, ils se les font implanter pour pouvoir aller à la disco, parce que comme ça, ils se font plus voler leur porte-monnaie. Tu payes payes ton entrée, c'est déduit sur la puce, etc. Donc ce sont tout à fait des choses qui existent. Mais à travers le théâtre, on peut en fait grossir le trait, montrer de quelle façon en fait toute la technologie qui a un côté génial et qui est au service de bien de nos activités peut à un moment donné se retourner contre nous et faire en sorte qu'on devienne vraiment les otages complets de la technologie et qu'on devienne complètement manipulé par tout le domaine de la technologie. Donc c'est comme ça qu'on a mené une critique de ce côté-là. Puis le deuxième sujet qui est l'écologie, et c'était un sujet plus difficile à débattre pour nous. Parce qu'en fait, quand on a analysé tous les documents qu'on avait trouvés, qu'on trouve dans le quotidien sur la question de la planète, en fait, on était vraiment complètement désespérés. Parce que tous les documents, tout ce qu'on nous dit est tellement alarmant. Et je me souviens vraiment de cette séance de travail entre Anne et moi. On s'est dit, mais c'est impossible, on est trop désespérés, on ne peut pas parler de ça. Donc, on a commencé par essayer d'analyser la question de l'espoir et de se dire, on ne peut pas vivre si on n'a pas d'espoir. C'est impossible. Je crois que l'être humain est incapable de dire, on se lève le matin, je ne sais pas, on espère trouver un café dans la cuisine, on espère que la journée sera belle. La journée est balisée d'une quantité de petits espoirs. Sinon c'est trop douloureux. Enfin, le désespoir est quelque chose, je pense, de très dangereux. Donc, on a réfléchi sur cette question du désespoir et ensuite, on a utilisé cette réflexion, en fait, pour l'engager dans la réflexion sur l'écologie en disant, mais mon Dieu, si on arrêtait de dire tout est foutu, on va tous dans le mur, mais dans le fond, bougeons-nous et essayons de faire quelque chose et dans le fond, on est peut-être en face d'une révolution absolument géniale dont nous pourrions être les auteurs. Donc, on est parti tout simplement avec le personnage de Trésor dans toute sa naïveté en disant, qu'est-ce que je pourrais faire si je voulais changer?
Et donc il y a un peu un risque du consensuel ou du convenu hein, dans ces sujets-là. L'environnement, on en entend beaucoup parler. Alors comment vous avez travaillé justement pour pas tomber dans des clichés liés à ce sujet ?
On est parti en fait de témoignages qu'on a trouvés. Par exemple, on parle d'un personnage qui s'appelle Laurent dans la pièce. Et en fait, ce personnage existe dans notre pays. C'est un homme qui se retrouvait dans son village et qui dit, bon, ben voilà, paraît-il qu'il faut faire un peu être soucieux de l'écologie. Mais moi, je suis nul, j'y connais rien. Et donc, il a réuni quelques personnes autour de lui et il a créé un petit groupe de réflexion en disant, pour essayer simplement de se filer des tuyaux dans un village. Et puis un autre qui l'a fondé dans l'autre village. Et finalement, en Suisse romande maintenant, dans beaucoup de villes, il y a des groupes simplement de gens. C'est monsieur et madame tout le monde, c'est pas des scientifiques, c'est pas ceux qui savent et qui vont nous expliquer. Simplement dire on voudrait se bouger. Et qui s'entraident et qui créent en fait des coopératives. On a aussi par exemple beaucoup de jeunes familles, de jeunes couples qui s'installent avec des enfants, qui prennent une tangente par rapport aux appartements, par rapport aux habitations. Tout à coup, ils se décident de se construire une maison à 3-4 jeunes couples et puis de faire des locaux communs, de faire une étude de construction sur les matériaux. Et ça, ce sont des choses qui marchent, qui sont en action maintenant. C'est pas uniquement des projets, ce sont des réalités.
Pour échapper au désespoir, peut-être.
Oui, et puis en fait, pour aussi qu'on prenne conscience, non pas uniquement de tout ce qui ne va pas, mais qu'on prenne conscience du nombre de gens, en fait, qui font quelque chose. Et quand on déplace notre regard sur ce sujet-là, on voit que c'est absolument énorme.
Et peut-être on devient actif et éco-compatible, alors.
Absolument. Absolument.
Est-ce que, selon vous, l'homme est-il éco-compatible ou il se détache complètement de la nature
actuellement ? Il y a une petite phrase, c'est la phrase finale du spectacle, c'est un psychothérapeute qui me l'a dit il y a quelque temps. Il dit, en fait, la question, c'est qu'on a oublié, actuellement, l'être humain a oublié qu'il était issu de la Terre. Il croit qu'il en est propriétaire. Il dit, si on arrivait à reprendre conscience, c'est-à-dire à retrouver notre place du fait qu'on est issu de la Terre, en fait, le problème de l'écologie serait réglé en un instant.
Également une pianiste sur scène et puis des reprises de différents artistes, notamment une reprise de Juliette. Et puis là, on va écouter une reprise de la chanson Dollar qui a été écrite par Jean Villard en 1932 avec Armand Mestre. On écoute ça tout de suite, c'était repris donc, du coup par Anne Jenny, la comédienne.
Et on monte jusqu'à sa chemise, on met le cap sur la terre promise pour voir le Dieu dans son église, le Dieu Dollar. Et déjà dans la brume du matin blafard, ce soleil qui s'allume, c'est un gros dollar. Il éclaire On perd pas le nord, vous pensez? Juste le temps de s'élancer, de s'installer, d'ensemencer. Ça part. On joue, on gagne, on perd, on triche. Pétrole, chaussettes, terrain en friche. Tout s'achète, tout se vend, on devient riche. Dollars. On met des vieux pneus en conserve, et même afin que rien ne se perde, on fait de l'alcool avec de la merde. Dollars. Jusqu'au bon Dieu qu'on mobilise et qu'on dépite dans chaque église aux enchères comme une marchandise à coups de dollars. Mais sur la ville ardente, dans le ciel blafard, cette figure démente, c'est le dieu dollar. Pas besoin de réclame, pas besoin d'effort. Il gagne toutes les âmes parce qu'il est en or.
Voilà, on écoutait Anne Jenny qui reprenait Dollar, cette fameuse chanson sur bien sûr la conquête de l'argent et sur ce que l'argent peut créer aussi au niveau des comportements humains. Alors le Théâtre des Os, hein, c'est votre compagnie, il est né en Suisse allemande, hein, je crois, à Fribourg. Il fête ses 31 ans, je crois, aujourd'hui, c'est ça?
C'est-à-dire, on a fêté nos 30 ans en 2009 et en 2010, les 20 ans de notre installation à Givisiez-Fribourg qui est à la limite des langues. Nous sommes un théâtre francophone. Dans notre région, il y a 2/3 de francophones et 1/3 d'alémaniques. Mais on est vraiment à l'axe des langues.
Et est-ce que vous avez organisé une célébration spéciale pour ces 20 ans d'implantation à Givisiez?
On va reprendre les femmes savantes l'automne prochain parce que c'était le premier spectacle qui a été créé à Givisiez. Il y a d'ailleurs maintenant à Givisiez, dans le quartier industriel où nous sommes, une rue des femmes savantes. N'est-ce pas? Elles ont décroché le nom d'une rue. Molière serait content, je crois. Et puis, on a, le éco-compatible est aussi, en fait, un moment d'anniversaire, puisque c'est tout un parcours de 14 ans avec Anne à l'intérieur du théâtre. Donc, ça participe, en fait, de la fête.
Comment a évolué ce petit théâtre depuis, justement, ce moment-là, il y a 15 ans, où vous étiez un petit peu dans une situation difficile? Comment, maintenant, il a évolué?
Alors, on est issu de compagnie. On était nomades, comme beaucoup de compagnies actuellement. Et là, on a été accueillis dans un lieu à Givisiez par un architecte industriel. Et peu à peu, notre théâtre s'est développé. Maintenant, on est devenu un petit centre dramatique fribourgeois. La région, on habite la région de Fribourg. Et donc là, on a deux petites salles. Une salle de 140 places et une de 80 places. Où on fait à la fois du théâtre classique, du théâtre contemporain, du théâtre de création à partir d'improvisation. De la relecture des textes classiques et des textes grecs. L'automne passé, on est venu au Théâtre d'eau avec Jocaste Rennes de Nancy Huston.
D'ailleurs, oui, on va parler de cette coopération que vous avez avec le Théâtre d'eau, puisque je crois que vous y êtes pour 3 ans. Vous aviez joué Jocaste Rennes et Oedipe Roy il y a quelques temps, je crois que c'était il y a quelques mois.
Au mois de décembre,
hein, c'est ça. Et vous revenez maintenant avec Éco-compatible. Comment ça s'est orchestré, ce lien avec le domaine d'eau?
Alors la rencontre avec Christopher Kremes est ancienne, puisqu'il travaillait tout près de la Suisse, il était à Mulhouse. Donc on est déjà allé jouer à Mulhouse alors qu'il était directeur de la filature. Et lui connaît bien notre travail, il est venu voir à peu près tout ce qu'on avait fait. Il a vu les euros et les mots compatibles. Donc c'est une relation,
de longue date,
qui date de plusieurs années, oui.
Tu voulais nous dire quelque chose, Laurie, puisque toi tu travailles au domaine d'eau, tu œuvres tous les jours dans cette grande structure. Qu'est-ce qu'on pourra retrouver au domaine d'eau pour la suite après Éco-compatible, qui, je le rappelle, se joue jusqu'à ce vendredi?
Eh bien, du 17 au 19 mars, on retrouvera une histoire de la chanson française avec Michel Bernard, qui est une des autres artistes associées au domaine d'eau pour ces 3 années à venir. Et donc, c'est cette semaine-là qui clôturera notre collection d'été, à savoir donc du 17 au 19 mars, Michel Bernard et ses invités, Rémo Gary, Anne Sylvestre et Jeanne Garraud. Voilà, donc pour terminer cette première collection d'été.
Très bien, bah écoutez,
D'hiver.
On n'est pas encore à l'été, malgré le soleil, hein, qui luit dehors. Eh bien, merci beaucoup Gisèle Salin d'être venue aujourd'hui nous parler de Éco-compatible, qui se joue, je le rappelle, jusqu'à ce vendredi. Vous retrouvez toutes les dates, toutes les informations sur les horaires et les tarifs au www.domaine-do-34.eu. Et puis merci à toi, Laurie, d'être intervenue aujourd'hui. Merci
avec
à vous
plaisir.
Deux. À bientôt.
Merci.
Au revoir. Et c'est ainsi que se referme ce Tous au poste tout en théâtre aujourd'hui. Florent, Robin, Julia Chamaudon, également Thomas, stagiaire, et puis Yannick qui nous faisait les bons plans du jour. Et puis c'était Pascal Rullier à la technique. Merci à vous tous. À suivre sur le 93.9 à 13h20, vous retrouverez Olivier Nautal avec ses chroniques, les dents à serrer, il commente l'actu. À 13h30, c'est le rendez-vous du 7e art avec nos trois joyeux lurons qui nous viennent entre autres du Diagonal Cinéma. Et puis Vincent Poirjou, journaliste indépendant cinéma, qui nous parleront de leur actualité cinématographique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le grand écran ? À 16h58, vous retrouverez un Radiomicide, votre journal des horreurs quotidiennes. Ce sera suivi de la rediffusion de ce Tous au poste sur les 17 coups de 17h. Et puis à 18h, ce sera la rediffusion de Cinérama. À 19h, on embrayera pour 24 notes secondes un petit tour d'horizon sur les bandes originales des films actuels. Et puis à 19h30, ce sera Rock'n'Page, une émission entre littérature et musique orchestrée par Marie-Pierre Soriano. On se quitte à 20h30 avec l'Agora des Savoirs, une conférence ce soir menée par Jean-Claude Amessin, La mort dans la condition humaine. Ce sera en direct de la salle Rabelais et sur Divergence FM. Pour l'heure, eh bien, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une joyeuse après-midi sous le soleil de Montpellier, malgré le froid qui pique. N'hésitez pas à sortir. À bientôt, à demain.